On va passer maintenant au moment de partage autour de la parole. Et je vais vous lire le passage. Donc, vous le savez, hein, on est dans la série sur la Genèse. Et donc, on va lire dans Genèse 3 ce soir, au verset 1 jusqu'à 13. Donc, c'est facile si vous avez les Bibles sur vos chaises. C'est vraiment tout au début de la Bible, donc vous n'avez pas besoin de chercher. Ou c'est diffusé ici, derrière moi. Genèse 3, versets 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » La suite. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée, et j'en ai mangé. » Jusqu'ici, la parole de Dieu.
On va parler sur la souffrance ce soir. OK, pourquoi Dieu aurait-il permis tout ce qu'on a lu ce soir? Ça, c'est la grande question. Un événement aussi tragique, un acte de rébellion aussi évident, alors qu'il connaissait parfaitement ses terribles conséquences. Le sceptique dirait que la question du mal, c'est peut-être la plus grande question, le plus grand défi pour la foi chrétienne. Voilà, pardon. Donc, il part sur cet aspect de la critique évidentielle. Cet aspect que, si le mal existe et vous pensez qu'il y a un Dieu qui est bon, ce n'est pas possible. Le Dieu ne peut pas exister. Ce n'est pas possible d'avoir la souffrance et un Dieu qui est bon. Sauf, Augustin a dit, « Dieu a jugé qu'il valait mieux faire sortir du bien de mal que de ne souffrir d'aucun mal. » Ça veut dire que Dieu avait quelque chose de plus bon, plus bien que le mal qu'on voit ou que peut-être on vit aujourd'hui. Ça, c'est notre espérance. Il y a d'autres critiques qui adoptent une approche logique. On aime bien la logique, n'est-ce pas, en France? Donc, cet aspect de logique, ça veut dire que, il y a quelque chose, c'est pas possible d'avoir cet aspect d'un Dieu qui est omniprésent, un Dieu qui est omniscient, un Dieu qui est omnibénévolent, et aussi cet aspect que, il y a des souffrances. Il y a une contradiction là. Sauf, il y a quelqu'un, un théologien, s'appelle Plantinga, qui dit, En fait, il n'y a pas de contradiction là. On peut avoir un Dieu bon et aussi le mal. La contradiction vient de mon hypothèse, mes pensées, mes attentes, quand je vois les propositions. Mais si les propositions sont pas, les propositions sont bonnes. Donc, Dieu ne peut pas agir contrairement de sa nature. Dieu avait le libre arbitre, mais n'a jamais choisi le mal. Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature qu'il est bon, et dans sa bonté, il a dit, je ne peux pas faire des choses mal. Cette semaine, j'ai pris un café avec quelqu'un et on a discuté pendant 2 heures la vie chrétienne de mal et la vision chrétienne de mal. Et cette personne croit qu'il y a un être spirituel, même il s'appelle Dieu, mais elle soutient que le mal n'existe pas. Ça, c'est ses pensées. C'est intéressant, il y avait un auteur romain qui a écrit pas mal de romans d'horreur, de suspense, d'inculte. Je ne suis pas sûr s'il est chrétien, mais regardez qu'est-ce qu'il a dit. Dans la pensée éclairée, il n'y a pas de véritable mal, mais dans notre vie quotidienne, on sait que ce n'est pas vrai. C'est pourquoi les gens sont attirés par les fictions qui disent que le mal existe vraiment, qu'il y a une façon de vivre qui est bonne et une autre qui est mauvaise, et qu'il s'agit de choix moraux. Les gens cherchent une sorte de réalisme qui trouve ironiquement dans la fiction. Donc, c'était plus facile pour eux de réfléchir sur le mal dans un livre de fiction pour réfléchir sur le mal qui existe en eux. Lorsqu'on demande pourquoi Dieu a fait plein de choses, c'est des choses qui... c'était partie de ma vie chrétienne aux universités où j'ai posé pas mal de questions. Mais je pense qu'il y a d'autres questions qu'on doit demander. En fait, ce n'est pas la chose de mal, mais pourquoi Dieu fait tout ce qu'il fait même aujourd'hui? Pourquoi il a créé ce monde? Est-ce qu'il y a des questions derrière ces questions qu'on a déjà discutées? Quel est son objectif primordial? Pourquoi il a créé ce monde? Et l'année dernière, j'ai lu un essai de Jonathan Edwards qui a parlé sur l'aspect de la fin pour lequel Dieu a créé le monde. Et Edwards explique que Dieu a créé le monde, pas juste principalement pour la bonté, le bonheur des humains, mais pour manifester sa gloire. Il a créé le monde pour manifester sa gloire. Je sais que ça semble un peu égoïste, n'est-ce pas? Ben, il a manifesté pour quelqu'un, pour lui-même. Mais qu'est-ce qu'on a lu déjà en Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2? Qui est notre Dieu? Notre Dieu est quelqu'un qui est bon. Il y a une bonté là, il y a beauté là. Et tout ce que Dieu a créé, c'était pour cette raison. Et qu'est-ce que c'est la meilleure raison de créer un monde pour lui-même? C'est pour refléter cette gloire dans ce monde. Donc, de plus en plus qu'on comprend que Dieu est bon, de plus en plus qu'on voit les choses qui sont bonnes dans ce monde, on voit cette parfaite plaisir qui se trouve en notre Dieu. Et ça rend plaisir à nous et ça rend plaisir à lui. Donc, Dieu a permis le mal. Pourquoi? Parce qu'il voit quelque chose de plus grand que le mal qui existe aujourd'hui. Il voit quelque chose de plus bon que les choses qu'on a lues dans Genèse chapitre 3. Il y a quelque chose de plus bon que toutes les choses qu'on a vécues. Dieu utilise même le mal de ce monde pour accomplir un bien supérieur. Je pense que c'est Joseph qui a exprimé le meilleur. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'histoire, mais Joseph était vendu dans l'esclavage. C'est la fin de Genèse. Il est en train de parler avec ses frères. Et qu'est-ce qu'il a dit à eux? Il a dit, Genèse chapitre 50, verset 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Donc, Dieu a même utilisé le mal pour le bien pour ses peuples. que le mal apparaît au chapitre 3 sans être annoncé. C'est comme la vie, n'est-ce pas? Tout va bien jusqu'à, bam, il y a des souffrances. On frappe la porte. Ça, c'est la vie. Et c'est un peu ce qu'on a vécu avec Genèse 1 et 2 et Genèse 3. Le mal arrive dans l'histoire. Et en tant qu'être humain, notre désir, notre vision pour la vie, si Dieu est bon, c'est de joindre cette bonté dans notre vie. Ça, c'est notre désir d'avoir cette présence, d'expérimenter cette présence chaque jour dans notre vie. Ça, c'est le but de notre vie. Donc, ce soir, on va examiner deux choses qui nous empêchent de faire pleinement cette expérience de Dieu, est de Éden. La déception de l'adversaire et aussi la dépravation de l'homme. La déception, ça veut dire qui crée le désordre dans la bonne création de Dieu. Et la dépravation, ça veut dire que toutes ces choses qui nous séparaient de Dieu. La déception de l'adversaire, verset 1. Voilà, il y a cette serpent. La hauteur de Genèse ne donne pas le détail comment cette personne ou comme cette serpent est arrivée. Il sait qu'il y a une serpent comme l'un des animaux. Qui a créé les animaux? OK, nous sommes dans la même page. Oui. Dieu. Donc, la lecture de l'ancien Proche-Orient considérait que le serpent, doté de qualités divines ou semi-divines, souvent, il était associé avec la fertilité, il était associé avec l'immortalité et la sagesse ou le mal. Mais on voit dans ce troisième chapitre de Genèse qu'il y a un serpent qui arrive, un animal sauvage. Et je sais que c'est peut-être difficile de croire que, OK, attendez, Daniel, tu es en train de dire qu'il y a un serpent qui parle. Ça, c'est bizarre. Mais il me semble qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu bizarres dans la Bible, n'est-ce pas? Dans le livre de Nombre, il y a un âne qui parle, un Balaam. Dans l'évangile de Matthieu, on a étudié Matthieu et aussi Marc, il parle de cette époque des couchants qui étaient possédés par les démons. Dans le livre de Jonas, qu'est-ce qui se passait avec Jonas? Il était avalé par un gros poisson, n'est-ce pas? Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu la vidéo sur YouTube où il y avait des kayakistes qui étaient en train, c'était un père et son fils, et il était avalé et recraché par une baleine. C'est vrai, vous pouvez regarder sur YouTube, c'est drôle. Mais donc il y a des choses comme ça qui sont bizarres, qui existent dans la Bible. Mais qu'est-ce que Genèse dit? Le serpent était le plus rusé. Le serpent est décrit comme rusé, mais pas sinistre, ni magique, rusé. D'autres traductions qu'on voit dans l'Ancien Testament, considèrent ce mot, c'est un peu neutre. Ce n'est pas quelque chose de mal ni bon, c'est neutre. Dans le proverbe, il s'agit même d'une qualité qui mérite d'être recherchée. À plusieurs reprises, il est considéré comme le remède à la naïveté dans les Écritures. Dans les autres livres, comme Job, on voit que les hommes rusés complotent contre quelqu'un, ou contre lui. Et ils étaient mal, parce qu'ils étaient rusés. Et dans l'Exode, une personne qui tente d'accomplir des actes meurtriers est aussi considérée comme rusée. Donc, on a les deux côtés. Pourquoi on a les deux côtés de rusée? Donc, si on voit le cadre de tout ce que Dieu est en train de créer, rusée et sous le contrôle de la crainte de l'Éternel, c'est une bonne chose. Rusée extérieure de la crainte de l'Éternel, extérieure de le plan de Dieu, extérieure de toutes les choses bonnes qui est guidée par les désirs et par les ambitions, ce n'est pas quelque chose de bon. C'est mal. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit dans ce premier verset. Donc, il dit à la fin, Dieu a-t-il vraiment dit, « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres de jardin. » Le serpent interprète mal les commandements. Est-ce que ça, c'est ce que Dieu a expliqué? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que vous ne mangez de... Pardon, Dieu n'a pas dit que Adam et Ève ne pouvaient manger aucun des fruits du jardin. Dieu leur a dit de manger à un arbre. Il a planté plusieurs arbres. Il n'y a qu'un arbre qu'il a dit, c'est interdit. Dieu a dit aussi dans Genèse chapitre 2, verset 17, « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Donc le serpent dit à Eve, « Je sais peut-être ce qu'il a dit, mais franchement, tu ne mourras pas tout de suite. C'est dans l'avenir. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas immédiat. C'est quelque chose pour l'avenir. » Le serpent ne parle pas de la séparation qu'elle va expérimenter. Il ne parle pas de la chose qu'il va ressentir après le péché. Il ne parle pas de toutes les choses qui vont changer à cause de ce péché. Non. Le serpent minimise le risque de le péché, du péché. Le serpent minimise les conséquences et l'effet du péché. Ça, c'est le serpent. Le serpent, dans sa ruse, essaie de détruire le processus et le timing que Dieu a mis en place autour de cette arbre. Dieu a créé les bonnes choses. On est d'accord. Il a créé les bonnes choses. Il a créé cette arbre. Et moi, je pense qu'il y a de bons fruits dans cette arbre. Ce n'était pas quelque chose de mauvais. De manger des fruits, ce n'est pas une mauvaise chose, mais de manger cette chose hors saison, pas dans le timing de Dieu, ça, c'était des choses qui n'étaient pas bonnes. Plus important encore, le serpent trompe Ève en lui faisant croire que l'interdiction de Dieu, pourquoi elle ne peut pas manger dans cet arbre, le fruit dans cet arbre? Parce que Dieu cache quelque chose. Il y a quelque chose dans cet arbre que Dieu ne veut pas que tu obtiennes. Il y a quelque chose qu'il garde pour lui-même. Ce n'est pas la nature de Dieu, mais c'est exactement la déception de l'adversaire pour tout le monde. Dieu ne veut pas qu'elle reflète ses qualités et ses pouvoirs bons et parfaits. Ça, c'est le mensonge que le serpent explique à Ève. Comme vous le savez, le serpent n'agit pas seulement comme un serpent, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un serpent qui parle. Mais dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on comprend, c'est qu'un serpent. Mais dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 12, verset 9, on lit, « Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. » Donc, le serpent signifie l'adversaire. Adversaire, ça veut dire quoi en hébreu? Contre. C'est contre les bonnes choses. Contre tout ce qu'on a vécu en Genèse 1 et 2. Contre. Soit ça agisse d'un serpent que le diable possédait, comme on a vu dans différents textes, ou soit peut-être c'est une créature spirituelle créée par Dieu à ce moment-là, à un moment donné, et elle a cherché sa propre gloire lui-même. Et donc, il était le diable lui-même. Peut-être deux options. Mais l'adversaire ou le diable s'oppose à tout ce qui est bon et beau pour créer le désordre, pour semer la zizanie. C'est ce que le diable fait. Donc, il prend la justice et qu'est-ce qu'il fait? Il rend injuste. Il prend les choses dignes et rend indignes. L'ennemi trompe l'humanité en lui faisant croire qu'une vie autonome, une vie autodéterminée est meilleure qu'une vie dépendante sur Dieu. Parfaite, aimante, qui offrait une liberté avec lui totale. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Ça, c'est la déception. Et tout cela n'est que des tromperies. Au chapitre 3, versets 1 à 13, on voit non seulement la tromperie de le diable, ce qu'on a vécu, on a vu, mais aussi l'auto-tromperie de l'homme. Dans le Western Catechism, il dit, « Toute l'humanité a perdu la communion avec Dieu, et sous sa couleur et sa malédiction est donc exposée à toutes les misères de cette vie, à la mort elle-même et aux douleurs de l'enfer pour jugure. » C'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 3. Donc, il y a cet aspect de la déprivation de l'homme. Aujourd'hui, on a tous né en dehors de Éden. On a tous né avec une nature mâle, nature péché. Nos pensées, nos actions le confirment. Le texte aujourd'hui nous explique comment le péché est arrivé, comment le péché agit en Adam et Ève. Et c'est comment on vit aujourd'hui cet cycle de péché. C'est les choses qu'on vit aujourd'hui. Et donc, pour nous, pour mieux comprendre le cycle de mieux, pour comprendre un peu plus mieux le cycle de péché, ça peut nous aider à combattre le péché dans notre vie quotidienne. Donc, on va regarder un peu plus comment l'adversaire, qu'est-ce que c'est la déception, qu'est-ce que c'est la chose que le diable a fait, mais aussi comment ils ont pensé. Et ça peut nous aider dans notre vie quotidienne. On voit ce cycle, et je pense peut-être qu'il y a une boucle là aussi dans ta pensée logicielle. Donc, la première chose, c'est ça commence avec le doute, n'est-ce pas? La femme, elle est en train de parler avec le serpent, et il y a des doutes. C'est clair que si Dieu a interdit Adam et Ève de manger de l'arbre, ils avaient une certaine compréhension qu'il y a des choses qu'il peut faire et des choses qu'il ne peut pas. Il y a cette compréhension, car il a déjà dit, ne mange pas à cet arbre. Je ne pense pas que ce soit un bon argument qui considère l'arbre comme un simple test. J'ai entendu quelquefois, c'est juste un test que Dieu a mis juste en face d'Adam et Ève. Je pense que ce n'est pas un bon argument. Mais je pense que si Dieu a créé quelque chose, comme on a dit, que c'était bon, qu'il devait en résulter en quelque chose meilleur dans la vie, ou quelque chose de bon dans la vie, ou dans le futur. Potentiellement, le bien qui devait en résulter était dans le futur et n'était pas juste, comme on a dit, pour ce timing-là. Et il me semble que c'est à peu près comme la même chose que Satan a fait avec Jésus. Qu'est-ce que Satan a fait? Quand Jésus était dans le désert avant le ministère, Jésus était dans le désert, on voit Satan et il tente Jésus avec 3-4 choses. Et une chose qu'il a tenté, il dit, fais ça et comme ça, tu peux recevoir la gloire de toutes les nations. Et en fait, c'est une vérité. C'est quand on croit que Jésus va recevoir la gloire de toutes les nations, n'est-ce pas? Mais pas à ce moment-là. Ça, c'est avant son ministère. Ça, c'est avant sa vie sur la croix, sur sa résurrection, toutes ces choses. Ce n'était pas le bon timing pour Dieu, pour la vie et le plan de Jésus pour nous. Et je vois que c'est à peu près la même chose dans ces versets. C'est clair que dans les versets, il y avait quelque chose dans la pensée logicielle de Ève qui a commencé à douter, en fait, la parole de Dieu. Qui a commencé à douter que peut-être il y a quelque chose de mieux que mon Dieu, mon bon Dieu. Le deuxième aspect, c'est la déception, verset 6. Donc, Ève a essayé d'argumenter. C'est la première fois qu'on voit l'apologétique dans la Bible. Elle a essayé d'argumenter contre le diable, mais elle n'a pas réussi, n'est-ce pas? Son incrédulité était plus grande que son amour pour la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a considéré le fruit comme bon. Donc, dans son raisonnement, elle a une raison que peut-être c'est OK parce que je vois que ça peut être utile. Est-ce qu'on fait la même chose? Elle a trouvé que le fruit est agréable. Elle a regardé, ah oui, c'est beau. Ça peut être cool, ça peut marcher. Elle y voyait aussi un moyen possible de grandir en sagesse. Qui ne veut pas grandir dans la sagesse ou l'intelligence? Au lieu de trouver son trésor et son intelligence en Dieu et en sa présence. Ça, c'était la déception. Puis on voit la désobéissance de Ève et Adam. Où était Adam pendant ces versets, pendant ce temps? Où est Adam? Où était Adam? Adam était là. Adam était là tout le temps. Mais il est resté silencieux. Écoutez les hommes, il est resté silencieux. Pourquoi Ève parle-t-elle alors? Pourquoi c'est que elle qui a parlé? D'abord parce que c'est le serpent s'est adressé à Ève, mais aussi parce que Adam a resté silencieux. Il n'a pas défendu Ève avec le serpent. Il n'a pas gardé le mal dans le jardin. Il y a un mal qui est arrivé avec cette serpent. Il s'est ouvertement rebellé, Adam. Certains diront que Ève peut-être a été trompée par l'ennemi, alors que Adam s'est rebellé contre le commandement de Dieu. Elle a demandé plusieurs questions, elle a argumenté. Adam, voilà, ça c'est le fruit, je mange. Ben, ce qu'il a fait, il n'a pas même discuté, il n'a pas même argumenté. Il s'est rebellé. Mais cependant, l'orgueil est à l'origine du péché d'Adam et Ève. Et quand vous voyez dans la Bible, c'est Adam qui a quitté ses responsabilités et c'est Adam, dans la Bible, qui place les conséquences du péché sur ses épaules, principalement. Puis on voit le dégoût. Donc on sait qu'ils étaient nus avant la chute, n'est-ce pas? Mais qu'ils ont maintenant honte après avoir mangé cette fruit et après qu'ils ont désobéi l'ordre de Dieu. Pour la première fois, Adam et Ève, ils ont fait l'expérience, les conséquences de leur manque de confiance en Dieu. Ils n'étaient pas prêts pour manger ces fruits. Et à ce moment, ils ont reçu, ils ont senti toute la honte qui est devenue après. Donc, ils ont essayé de jouer cache-cache avec la présence de Dieu. Ça n'a jamais marché. On a déjà parlé de travail en Genèse, mais qu'est-ce qui se passait avec Adam et Ève quand ils ont péché? Adam et Ève, après avoir péché, ont dû aller fabriquer des vêtements. Souvent, les conséquences du péché ajoutent le travail. Aussi, il est important de noter que Dieu est décrit comme il marche dans le jardin. Vous entendez cet aspect de marche dans le jardin. Et cette proximité, cette présence, c'était la chose si importante dans l'Ancien Testament. Il parle beaucoup dans l'Ancien Testament sur la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui se passait après le péché? Ils n'ont pas senti la présence de Dieu. Il y avait vraiment une séparation entre eux et Dieu. Ils ont perdu cette relation qu'ils avaient avec lui. Puis on voit la destruction. Leur recherche d'indépendance, d'autonomie, de maturité, leur consommation de fruits leur a donné une conscience sexuelle qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est un peu comme ils ont passé par l'adolescence et ils ont arrivé tout de suite avec cette honte et ne savaient pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. On voit également que Dieu ne s'adresse pas à Ève à ce moment-là. Il n'adresse que Adam. Mais aussi, on voit aussi que c'est la première fois qu'on voit dans la première personne « je ». C'est la première fois dans la Bible. Le péché pousse toujours l'individu au centre et qui remplace Dieu. Dieu est centre de notre vie. Ça, c'est le désir Genèse 1 et 2. Mais maintenant, on voit que l'individu et tous nos efforts, c'est au centre. Versets 11 à 13. Dieu n'est pas eux à poser des questions. On voit plusieurs fois que Dieu a posé des questions, mais ils savaient qu'ils avaient fait. Ils savaient où ils étaient cachés. Il n'y a pas eu besoin de les appeler pour les trouver. Il est omniscient. Il est omniprésent. Mais Dieu lance un appel pour donner à l'homme l'occasion de répondre. L'occasion de reprendre et de confesser de tout ce qu'il a fait. La vie avec Dieu commence toujours avec cet aspect, une réponse, avec un appel qui vient de Dieu pour la confession et la repentance. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans ces versets. Il ne s'agit pas de repentir, mais il commence un jeu de blâme. L'homme, qu'est-ce que l'homme répond à Dieu? Il dit, il reproche Dieu. Il dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Donc, il n'a pas blâmé la femme, il a blâmé Dieu lui-même pour donner cette femme pour lui. Et qu'est-ce que la femme a dit? La femme répond en accusant le serpent. Donc, les deux blâment quelqu'un d'autre, tous les deux, à cause du péché, à cause de leur orgueil, à cause de leur, d'avoir pas de confiance en Dieu. Mais le plan de Dieu, et ça c'est la bonne nouvelle, le plan de Dieu n'a pas été arrêté par la désobéissance d'Adam ni la tromperie de Satan. Ça c'est la bonne nouvelle. Adam et Ève ont ressenti la présence de Dieu, le Créateur, dans le jardin. Aujourd'hui, on ressent la plénitude de Dieu, Créateur, mais aussi comme Rédempteur. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. Sans la création de Genèse 1 et Dieu, il ne pourrait avoir de chute de Genèse chapitre 3. Sans une création déchue, il ne pourrait avoir de création rachetée, renouveau. Grâce au plan de la rédemption de Dieu, le Fils éternel de Dieu est venu, a pris la bonne nature, la nature humaine, a parfaitement reflété la bonté de Dieu, la ressemblance de Dieu, avec une vie moralement irréprochable, a expié nos péchés par sa mort sacrificielle. Il est ressuscité du tombeau et il est monté au ciel, où il continue d'intercéder et de nous garantir la joie éternelle en sa présence. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'il y avait une chute en Genèse chapitre 3. J'aime bien Dietrich Bonhoeffer et tous ses livres. Et dans le dernier jour de son... il était emprisonné pendant la Deuxième Guerre. Et avant qu'il ait été tué par les nazis, il a écrit une note et il a dit: seul un Dieu souffrant peut m'aider. Quand vous voyez la souffrance aujourd'hui, c'est à grâce à Jésus-Christ qui a souffert ici sur terre que nous pouvons comprendre avec plénitude notre Dieu. Pas juste un Dieu créateur, mais aussi un Dieu rédempteur. Je n'ai pas ajouté beaucoup d'illustrations dans cette prédication, comme d'hab. Je n'ai pas ajouté beaucoup d'histoires, parce que je vois pas mal des images, pas mal d'illustrations dans le texte. Il y a plein d'images. Aujourd'hui, en tant que chrétien, quand on meurt à nous-mêmes et qu'on devient dépendant de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit, on remet l'ennemi à sa place. On remet l'ennemi à sa place et on repousse le mal. Ça, c'est ce qu'on peut faire. C'est en lui qu'on trouve notre vraie vie, vie d'épanouissement. C'est en lui qu'on trouve notre sagesse. C'est en lui qu'on trouve notre désir et plaisir éternel. Et non dans notre propre raison. Non dans notre propre timing. En lui. On voit que le chef de l'Église, Jésus, n'est pas resté silencieux. Même peut-être vous avez un mari qui reste silencieux, vous n'avez pas un Jésus qui a resté silencieux. Il est agi comme un homme. Il a agi comme notre Dieu rédempteur. Il a parlé, il a agi, il a souffert pour son épouse, l'Église, et il a écrasé Satan. Un jour, il reviendra pour terminer ce qu'il a commencé, et toutes les nations se réjouiront et chanteront et glorifieront sa gloire et son nom. Avant la création de ce monde, Dieu avait déjà prévu un moyen de racheter son peuple, même avant la chute, même avant la création du monde. Dieu avait déjà prévu un moyen de rechercher son peuple plein de péchés par le sang de Jésus-Christ. Dieu préparait déjà une cité éternelle où il n'y aurait plus de peur, plus de honte, plus de relations brisées, mais un avenir rempli de sa présence, de la gloire et de sa beauté et de sa sagesse. Ça sera notre Éden. Dieu appelle son peuple dans sa gloire avec une sainte présence qui nous appelle tous dans son plan ultime, invitant tous ceux qui ont joué à cache-cache, peut-être comme moi pendant mes études, peut-être vous aujourd'hui, à accepter son invitation à faire les expériences de son salut, à expérimenter sa présence éternelle quand on demeure en lui par le travers de son Fils. Tu l'entends? Tu l'entends? Où es-tu ce soir? Où es-tu? Voulez-vous me rejoindre à lire les versets suivants en voix haute pour terminer la prédication comme prière? Lire avec moi. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissant pour les fils. Amen. C'est le moment pour le Saint-Saint et c'est le moment d'expérimenter, de participer avec cette plénitude qu'on reçoit en Christ. Oui, nous sommes des pécheurs, mais on a un bon Dieu qui nous a donné son Fils pour nous-mêmes. Et ce soir, on peut célébrer cet aspect avec le Saint-Saint. La nuit, il a dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Donc, si vous croyez en Christ, et Christ est votre Seigneur, votre Rédempteur, ce soir, vous pouvez participer avec nous, avec le Saint-Saint. Sylvain, si tu peux jouer le piano pendant le Saint-Saint. Et vous êtes bienvenus quand vous êtes prêts.